Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Anastasie Tudiache avec vous, il est 19h30 en temps universel. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire, au Nigeria, le gouverneur de l'état de Yobe dément, les jeunes filles disparues n'ont pas été sauvées. Au Mali, 7 islamistes tués dans la région de Tombouctou alors qu'ils attaquaient un poste de contrôle. Dans l'ouest du Rwanda, dispersion musclée de réfugiés congolais, ils manifestaient contre leurs conditions de vie dans le camp de Kiziba. Une vingtaine de chefs d'État se réunissent demain à Bruxelles pour tenter de trouver un financement pour la force du G5 Sahel. Et puis pour le président Donald Trump, armer certains enseignants serait une riposte efficace face aux nombreuses fusillades. Dans 10 minutes, dans Le Monde Aujourd'hui, c'est la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal. La plus grande confusion règne à Dapchi, dans le nord-est du Nigeria, où des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et habitants qui réclamaient des nouvelles des dizaines de jeunes filles toujours portées disparues 3 jours après une attaque de Boko Haram. Le gouverneur de l'état de Yobe a finalement expliqué aux parents des élèves manquantes qu'elles n'avaient pas été sauvées par l'armée, comme l'avait annoncé son porte-parole la veille au soir. Au Mali, plusieurs islamistes ont été tués dans des affrontements cette nuit entre les islamistes et une position de la plateforme à Bourem Inali, à 25 km de Tombouctou. Le point avec notre correspondant à Tombouctou, Abdoulaye Traoré.
Hier soir à 20h, une position de la plateforme est attaquée à Bourem Inali. C'est à 25 km à l'est de Tombouctou. Selon les témoins, les combats qui ont commencé à 20h on dirait jusqu'à 1h du matin, avec des armes lourdes. Le bilan fourni par un responsable de la plateforme fait état de 7 islamistes tués. Côté plateforme, on ne déplore ni morts ni blessés. Mais le chef de poste, lui, est porté disparu. On se pose des questions s'il est mort, enlevé ou bien serait en fuite pour se cacher. Ce matin, un renfort de la plateforme s'est rendu à Bourem Inali. Comme on le sait, les islamistes sont capables de revenir à tout moment. On peut dire en ce moment que la localité est sous le contrôle de la plateforme. La plateforme est une coalition des mouvements armés composés de Gacha, MAA et la CMFPRN qui assure la sécurité dans certaines localités de Ber et Bourem Inali. Abdoulaye Traoré depuis Tombouctou pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, les premières élections sénatoriales sont officiellement fixées au 24 mars prochain en vue de l'instauration du Sénat créé par la nouvelle constitution de 2016. Ces sénatoriales vont se tenir avant les élections municipales et régionales couplées prévues cette année et dont les dates ne sont pas encore connues. Au Cameroun, le congrès national du parti d'opposition s'est ouvert aujourd'hui. Le leader du SDF, le Social Democratic Front, l'opposition donc, a annoncé qu'il ne sera pas candidat à la présidence. Le SDF se réunit à Bamenda, où les commerçants observent une journée ville morte suite à un appel des sécessionnistes. Ces derniers menacent depuis plusieurs jours de déstabiliser le congrès du SDF, ce congrès qui doit aboutir à la nomination du candidat du parti à l'élection présidentielle prévue fin 2018. À l'issue d'une visite de 4 jours en Centrafrique, Ursula Mueller, secrétaire générale adjointe au secours d'urgence de l'ONU, avertit « Il faut agir maintenant pour éviter une nouvelle détérioration de la situation humanitaire ». Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU en Centrafrique, l'OCHA, les besoins de 2018 sont estimés à 515,6 millions de dollars, alors que le financement obtenu ont fortement chuté de 325,6 millions de dollars en 2015 à 192,6 en 2017. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement se réunissent demain à Bruxelles pour renforcer leur soutien au G5 Sahel. Des détails, Claire Morin-Gibourg.
Emmanuel Macron, le président français et Angela Merkel seront présents à cette conférence aux côtés des présidents du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Tchad. Cette mobilisation est la preuve d'une prise de conscience collective de l'importance du Sahel pour la stabilité de l'Afrique et, au-delà, la stabilité de l'Europe, se sont félicités les autorités françaises. L'objectif de la conférence de Bruxelles est de mobiliser plus de 300 millions d'euros pour la force G5 Sahel. Plus de 100 millions sont attendus de l'Europe. L'Arabie Saoudite s'est déjà engagée à hauteur de 100 millions. Les 5 pays qui forment cette force doivent apporter 10 millions d'euros chacun et la France 8 millions. Les États-Unis, eux, ont promis une aide bilatérale de 60 millions de dollars. Cette force du G5 Sahel est censée combattre les djihadistes dans la région. Hier, l'explosion d'une mine artisanale au Mali a causé la mort de 2 soldats français.
Et l'actualité en dehors du continent, aux États-Unis, une semaine après la fusillade où 17 personnes ont été tuées dans un lycée en Floride, le président Donald Trump évoque la possibilité d'autoriser le port d'armes pour certains enseignants. Raïssa Girondin.
Le président américain Donald Trump a évoqué la possibilité d'armer certains professeurs et membres du personnel pour qu'ils soient en mesure de défendre leurs élèves en cas d'attaque ou pour avoir un effet dissuasif. « Une école sans armes attire les méchants », a tweeté Donald Trump. Dans la même série de tweets, le président américain a réaffirmé qu'il était favorable à l'idée de relever de 18 à 21 ans l'âge pour pouvoir acheter une arme. La NRA a immédiatement fait savoir son opposition à tout relèvement de l'âge légal pour acheter une arme, en estimant que cela reviendrait à faire payer à des citoyens respectueux de la loi les actes de criminels. Les lycéens prévoient un grand rassemblement le 24 mars à Washington. Ils reçoivent chaque jour des soutiens de personnalités comme l'ex-première dame Michelle Obama. L'acteur George Clooney et l'animatrice Oprah Winfrey ont promis séparément 500 000 dollars pour soutenir la manifestation pour une régulation des armes à feu.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Quelques 2500 ouvriers inquiets de leur avenir, de l'avenir de leur entreprise et donc du leur, évidemment, ont cessé le travail dans une mine de charbon appartenant à la sulfureuse famille Gupta, au cœur d'un vaste scandale de corruption dans lequel est impliqué l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Les grévistes veulent être informés de la situation de leur entreprise qui aurait été revendue à un nouveau propriétaire et toucher les salaires qui leur sont dus cette semaine. Pour sa part, le gouvernement a affirmé ne pas avoir reçu de demande de transfert de propriété de la mine. En Allemagne, un homme de 70 ans a été incarcéré après une attaque au couteau contre 3 demandeurs d'asile dans le sud du pays. Il a été incarcéré pour tentative de meurtre sur 3 personnes, un acte à motivation politique et raciste. L'un des migrants a été grièvement blessé. L'homme, l'attaquant, a indiqué qu'il voulait envoyer un signe contre la politique migratoire de l'Allemagne, qui a accueilli depuis 2015 plus d'1 million de demandeurs d'asile. La Cour d'appel de Paris se prononce aujourd'hui sur une remise en liberté de Tariq Ramadan après avoir ordonné une expertise médicale qui a jugé l'état de santé de l'islamologue suisse compatible avec sa détention provisoire. Monsieur Ramadan, 55 ans, a été inculpé le 2 février pour viol, dont l'un sur personne vulnérable, après les plaintes de 2 femmes fin octobre qui ont débouché sur une information judiciaire confiée à 3 juges d'instruction. L'intellectuel conteste les accusations. 13 civils ont été tués ce jeudi dans de nouveaux bombardements du régime sur l'enclave rebelle de la Ghouta orientale près de Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il pleuvait dans la région, c'est pourquoi il n'y a pas eu de raid aérien. Le régime a opté pour les obus et les roquettes pour bombarder le fief rebelle, a affirmé le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahman. L'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad a posé un nouvel acte de défi aux autorités en demandant l'organisation immédiate d'élections libres en Iran dans une lettre ouverte au numéro 1 iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. En état de semi-disgrâce et cité dans plusieurs affaires judiciaires impliquant certains de ses proches pour corruption, M. Ahmadinejad multiplie depuis plusieurs mois les critiques virulentes contre le pouvoir. L'Arabie Saoudite a annoncé son intention d'investir l'équivalent de 64 milliards de dollars dans la culture et le divertissement au cours des 10 prochaines années. Le prince héritier Mohamed Ben Salman, 32 ans, a engagé un plan appelé Vision 2030 pour restructurer l'économie, notamment une participation croissante des femmes à la vie publique et l'ouverture du royaume qui applique une version rigoriste de l'islam à la culture occidentale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco, la revue de l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Eric Manirakiza.
Le Tchad et la société de négoce suisse Glencore ont convenu la restructuration de la dette du gouvernement de plus d'un milliard de dollars. Cette société exploite le pétrole tchadien depuis 2013. L'accord offre à N'Djamena une période de grâce de 2 ans pour rembourser sa dette à Glencore. Il permet de garantir la soutenabilité de la dette extérieure et d'assurer le financement de son programme triennal avec le FMI. La Banque mondiale conseille le Ghana de réduire les importations de produits alimentaires pour revitaliser le secteur agricole et renforcer l'économie. En 2017, le maïs, le riz, le soja, le sorgho et les légumes, ainsi que la tomate, l'oignon et le poivre, devaient générer environ 290 millions de dollars. En Afrique du Sud, près d'un jeune sur deux au chômage et le taux frôle les 50%. Pretoria a enregistré une croissance de près d'1% l'an dernier. Les analystes tablent sur une croissance de près de 2% pour cette année et une inflation sous la barre des 4%. Ici aux États-Unis, l'impact de la réforme et des impôts sur les dépenses des consommateurs et des entreprises pourrait être plus important que prévu. Les membres de la Banque centrale pensent que les prix vont sans doute augmenter en 2018 si les conditions du marché de l'emploi se resserrent davantage. Une partie de ces membres estime que des réductions d'impôts vont mener les entreprises à réduire les prix pour rester compétitives et gagner des parts de marché. Elles doutent également de l'accélération de l'inflation.
C'est le sport maintenant avec vous, Yacouba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir, Anna.
On commence avec Sepp Blatter qui soutient la candidature du Maroc pour l'organisation du Mondial 2026.
Oui, Anna, ex-président controversé de la FIFA, Sepp Blatter ne dispose plus d'aucun pouvoir de décision au sein de l'instance dirigeante du football mondial. Mais cela ne l'empêche pas de se prononcer sur certains sujets. La FIFA rejette la co-organisation depuis 2002 et maintenant le Maroc devrait être l'organisateur logique de la compétition en 2006. L'heure est venue aussi pour l'Afrique, a écrit Sepp Blatter. Sur son compte Twitter, reste à savoir si l'ancien patron de la FIFA demeure toujours un soutien de poids.
La question reste posée. Match retour des 16e de finale en Europa League, et c'est ce soir?
Oui, Anna, des matchs sont en cours et tirent vers leur fin. Pour le moment, l'Atlético Madrid mène 1-0 devant le FC Copenhague grâce à un but de Kevin Gramero. Les Italiens de la Lazio de Rome sont en train de pulvériser le CS Bucarest 5-0. Après leur défaite à l'aller 1-0, 3-2 pour le Sporting Lisbonne devant Astana, 3-0 pour le Zenit Saint-Pétersbourg face au Celtic Glasgow, 0-0 entre Villarreal et Lyon. Un peu plus tôt, Nice s'est incliné 1-0 devant Lokomotiv Moscou, qualifié pour les huitièmes de finale. Les Russes, on le rappelle, avaient gagné 2-3 au match aller à Nice.
Yacouba Souley-Mountari signe au Deportivo de Sidorf.
Tout à fait, Anna, le milieu ghanéen de 33 ans a signé au Deportivo de la Corogne jusqu'à la fin de la saison. Après un essai concluant, il sera désormais entraîné par le néerlandais Clarence Seedorf, vous le disiez tout à l'heure. Mountari a notamment porté les couleurs de l'Inter Milan depuis, puis hein, ensuite, après l'Inter Milan, c'était l'AC Milan. Il a évolué aussi sous les ordres du même Seedorf, éphémère entraîneur des Rossoneri en 2014. Le Ghanéen vient renforcer l'entrejeu de l'équipe galicienne. Actuel 19e de Liga, va d'affronter l'Espagnol Barcelone ce vendredi dans un match déjà crucial pour la course au maintien.
Et puis la Hongrie qui salue sa première médaille d'or olympique d'hiver.
C'est historique. Anna, le président du comité olympique hongrois a évoqué un miracle après que son pays a remporté aujourd'hui dans le relais 5000 mètres de short track sa première médaille d'or à des Jeux olympiques d'hiver bien sûr. Le premier ministre souverainiste Viktor Orban s'est dit reconnaissant d'avoir pu vivre cette journée en course à tous les Jeux d'hiver depuis 1924. La Hongrie ne comptait jusqu'à présent à son palmarès total que 2 médailles d'argent et 4 de bronze.
C'est la fête donc. c'est aussi la fin de cette page sport. Merci Yacouba Ouedraogo.
Merci à vous, Anna.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiège avec vous pour la deuxième partie du Monde aujourd'hui. Voici les dossiers du jour. Dans l'ouest du Rwanda, manifestation de milliers de réfugiés congolais au camp de Kiziba. Ils ont marché vers les bureaux du HCR dans le district de Karungi pour réclamer de meilleures conditions de vie. Ils ont été dispersés par l'armée rwandaise et certains réfugiés ont fait état de personnes tuées. Idriss Fall a joint notre confrère Claude Ganza Munyamagana, correspondant de La Voix de l'Amérique sur place. Écoutons-le.
Les réfugiés qui ont quitté le camp de Kiziba vers le siège des HCR, le branche des Karungi à l'ouest du Rwanda, viennent d'être dispersés par les forces militaires et policiers. Certains d'entre eux ont été blessés et d'autres, et je ne peux pas préciser le nombre, ont été tués. Une personne venant du camp de Kiziba vient de me dire qu'il vient de perdre sa sœur et son petit frère, tués par balle. Auparavant, ils ont utilisé le gaz lacrymogène pour disperser la foule qui avait résisté et retourner au camp de réfugiés, là où ils vivaient pendant plus de 20 ans.
Qu'est-ce qui a provoqué la colère des réfugiés?
Les réfugiés réclament les conditions de vie qui deviennent de plus en plus difficiles. Aussi, le fait qu'ils n'ont pas la liberté d'exprimer leurs conditions de vie. Ils disent qu'ils ne peuvent même pas voter leurs autorités, sauf si le gouvernement vient dire on doit voter celui-ci ou celui-là. Non, selon la volonté des réfugiés de Kiziba.
Est-ce qu'on doit les ramener dans leur camp? Est-ce qu'on doit les déplacer? Est-ce qu'on doit les retourner en RDC d'où ils viennent originellement?
Pour les réfugiés, ils demandaient d'être réinstallés dans le troisième pays avant que la sécurité regagne dans leur pays natal. Et si ce n'est pas possible, ils peuvent choisir de retourner dans leur pays natal. Ils disent que leurs conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. De toutes les façons, ils disent que Il ne voulait plus d'être au Rwanda. Au moment où nous parlons, ce qui était au bureau du HCR, le bureau de Karungi, vient de quitter et il part au pied pour regagner leur camp.
Que dit le HCR dans tout ça?
Le HCR, dans les communiqués de presse, disait qu'il faut résoudre les conflits avec le calme. Le HCR demandait aussi aux réfugiés de respecter la loi du pays qui les a accueillis. La réduction de nourriture a été causée par donc, la réduction en général des rations pour les réfugiés.
Pourquoi l'armée rwandaise est mêlée à ça? Parce que normalement, les réfugiés, c'est l'affaire du HCR, non?
Oui, normalement, ça devrait être la responsabilité du HCR. Mais hier, le représentant régional du HCR, ici à Karungi, à l'ouest du Rwanda, a dit que les réfugiés de Kiziba ne sont plus sous la responsabilité de l'HCR, à moins qu'ils retournent dans leur cas de Kiziba et quittent le bureau de l'HCR là-bas. Ils résistent et ils ont résisté, bien sûr. Ils sont maintenant sous la responsabilité et contrôle du gouvernement rwandais.
Notre confrère Claude Ganza Munyamagana, correspondant de La Voix de l'Amérique au Rwanda.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La corruption est un problème de taille en Afrique aussi. C'est ce qui ressort du rapport 2017 de l'ONG Transparency International qui a établi un classement de la perception de la corruption dans 180 pays à travers le monde. Pour analyse de la situation en Afrique, Yacouba Ouedraogo a joint Samuel Kaninda, conseiller d'Afrique à Transparency International.
Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, au courant de ces dernières années, ont eu un progrès soutenu, bien que ça reste encore en deçà de la moyenne, leur score. Le Sénégal, pour cette année, c'est 45 et la Côte d'Ivoire est toujours dans la trentaine. Il y a encore des efforts à fournir.
Vous avez cité le cas de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Qu'est-ce que ces pays l'ont fait concrètement en matière de lutte contre la corruption?
Des mesures ont été prises pour renforcer les institutions, promouvoir par exemple la déclaration des patrimoines par les assujettis au niveau de l'État, ce qui permet une transparence parce que la lutte contre la corruption voudrait pas seulement que les lois y soient, mais que tout le monde s'y mette. Il faut l'accès à l'information et pour cet accès à l'information, il faut aussi que dans le comportement des dirigeants, de tous les responsables, qu'on sache que la redevabilité est de mise.
Tout cela doit être suivi d'effets sur le terrain, mais on ne voit pas trop.
C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir dans ce sens. Au niveau du Sénégal, nous avons vu qu'il y a eu la remise en fonction de la Cour pour la répression de l'enrichissement illicite. Les cas de corruption que l'on peut traiter emblématiques au niveau des personnalités au haut niveau, bien qu'il y ait une connotation fortement politique par rapport à ces procès.
Quels sont les États qui traînent toujours les pas dans la lutte contre la corruption?
Nous avons toujours la Somalie, le Soudan du Sud, et dans ce lot, Malawi, il y a la Guinée-Bissau qui est dans cette même branche, mais nous avons même le Libéria. Donc ce sont ces États où soit il y a une fragilité, presque un effondrement de l'État suite au conflit et qui sont encore en train de sortir de cette période de conflit.
Quand on parle de corruption, généralement on indexe les dirigeants, surtout en Afrique, alors que la corruption aussi s'observe au bas de l'échelle. Est-ce que tout cela est pris en compte?
Ce ne sont pas les seuls dirigeants qui sont coupables, mais ça commence à ce niveau parce que vous observez des pays où peut-être, je donnerai l'exemple du Rwanda, du Botswana, on peut peut-être reprocher à ces régimes d'être assez autoritaires, mais puisque l'exemple est donné d'en haut, on ne permet pas, on ne tolère pas par exemple qu'un policier sur la route puisse percevoir des pots de vin de la population.
Quels sont les secteurs d'activité qui sont le plus touchés par la corruption en Afrique?
Ce sont les secteurs liés aux services sociaux de base. Pour se faire délivrer un passeport, un document d'état civil, avoir l'accès à l'eau, il y a l'éducation où les notes s'achètent par moment, mais il y a aussi les questions de passation de marché public, où il y a cette collusion entre le secteur public et le secteur privé, des enveloppes qui passent sous les tables, peut-être pour obtenir un marché. Il faut un peu plus de rigueur et des mesures pour prévenir la corruption en rendant les processus transparents, accessibles à tous ceux qui sont parties prenantes à cela.
C'était Samuel Kaninda de Transparency International.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Comment sécuriser davantage les écoles américaines? La question est sur toutes les lèvres, plus d'une semaine après la fusillade dans un lycée en Floride qui a fait 17 morts. En rencontrant hier les familles des victimes, le président Donald Trump a soulevé la question polémique du port d'armes par les enseignants. C'est un reportage de Zlatika Hoke, dit par Abdourahman Dia.
Le président Donald Trump, le vice-président Mike Pence et la secrétaire à l'éducation Betsy DeVos ont écouté les témoignages poignants d'étudiants et de parents qui ont perdu des amis, des proches et des enseignants dans la fusillade de Parkland et dans d'autres incidents. Ces deux élèves racontent avec émotion ce qu'ils ont vécu et comment ils voient l'avenir.
J'ai perdu mon meilleur ami qui était presque comme un frère et je suis ici pour faire entendre ma voix car lui ne peut pas.
Cela ne concerne plus que Parkland, mais l'Amérique entière. Cela concerne chaque étudiant dans chaque ville.
Les parents qui ont perdu leurs enfants dans différentes fusillades ces dernières années ont rappelé aux autorités qu'il n'y a presque pas eu d'avancée depuis le massacre de Columbine en 1999 et celui de Sandy Hook dans le Connecticut il y a 5 ans. Et pourtant, ces deux attaques sont parmi celles qui ont le plus ému l'opinion publique américaine. Ce parent a perdu sa fille à Columbine, dans le Colorado.
Il y a 19 ans, j'ai vécu ce que certains dans cette salle sont en train de vivre, car ma très belle fille Rachel a été tuée.
Et cette femme n'est pas contente que les hommes politiques n'aient pas respecté leurs paroles.
Après Sandy Hook, ils avaient dit que cela n'allait plus se répéter. Pourtant, cela continue depuis 5 ans.
Les participants à cette rencontre à la Maison-Blanche ont appelé à une série de mesures pour faire face à ces fusillades, comme une meilleure prise en charge des personnes souffrant de maladies mentales, une amélioration des conditions de sécurité et un meilleur contrôle à l'entrée des écoles. D'autres ont exprimé leur souhait de voir des restrictions sur les ventes d'armes et adopter une loi pour faire passer de 18 à 21 ans l'âge minimum pour acheter une arme à feu. Une idée à laquelle le président Trump semble ouvert. Il s'est aussi dit ouvert à une amélioration du système de collecte d'informations sur les personnes achetant des armes à feu.
Donc, on va s'attaquer à cette question du contrôle des antécédents. Nous allons faire beaucoup de choses différemment.
S'il semble se dégager un consensus sur ces questions, le sujet sur la possibilité d'armer certains enseignants, comme le suggère le président Trump, pourrait toutefois être plus difficile à faire accepter.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Joselle Morissin, assistée de Audrey Rigas. Je suis Anastasie Tudiège pour l'actualité 24 heures sur 24. Rendez-vous sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook également. Très belle soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de la gouvernance du Nigeria bénéficieront d'une nouvelle aide des États-Unis. L'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, a annoncé une enveloppe additionnelle de 89 millions de dollars en faveur du Nigeria. Cet appui vise à poursuivre le soutien aux objectifs prévus dans l'accord d'assistance aux objectifs de développement signé en 2015 par le gouvernement américain et nigérian. Près de la moitié de nouveaux fonds, soit 44 millions de dollars, soutiendra la lutte contre le VIH-SIDA à travers le plan présidentiel d'urgence contre le SIDA, le PEPFAR. Le reste aidera le nord-est du Nigeria à accroître la productivité agricole, la croissance économique et la résilience à travers l'initiative Feed the Future du gouvernement américain. Il s'agit aussi de renforcer l'éducation, soutenir la bonne gouvernance et améliorer les infrastructures d'adduction d'eau et d'assainissement. Les nouveaux fonds porteront à 808 millions et demi de dollars l'aide du gouvernement américain au Nigeria sous le plan d'assistance étalé sur 5 ans. L'USAID a collaboré avec le ministère nigérian du budget et de la planification nationale, ceux de la santé, de l'agriculture, de l'énergie et de l'éducation et leur homologue au niveau des États pour notamment structurer l'accord bilatéral d'assistance qui court jusqu'à 2020. En plus des fonds d'appui au développement, les États-Unis fournissent une assistance humanitaire aux personnes affectées par le conflit en cours au Nigeria ainsi que la sévère insécurité alimentaire dans la région du lac Tchad. Le gouvernement américain, sous la conduite de l'USAID, a octroyé plus de 526,7 millions de dollars d'assistance humanitaire depuis 2017 et continue d'être le plus important donateur humanitaire bilatéral dans la région. Cette nouvelle assistance souligne l'importance continue des relations entre le Nigeria et les États-Unis, a déclaré Julian Conan, administratrice adjointe de l'USAID au Nigeria. Notre solide partenariat avec le Nigeria et ses institutions renforcera les efforts du Nigeria en vue d'améliorer ses systèmes de santé, d'éducation, de gouvernance et son agriculture dans les zones du pays où ils sont les plus nécessaires.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
bienvenue.